Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, François Truffaut. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. François Truffaut, donc, c'est un cinéaste qui est devenu classique. Il a tourné environ une vingtaine de films et sur une période finalement assez réduite. Puisqu'il est né en 1932, il est mort en 1984, donc 52 ans et une vingtaine de films. Donc c'est un cinéaste prolifique. On a des cinéastes plus prolifiques comme Rainer Werner Fassbinder, mais François Truffaut, c'est quand même pas mal déjà. Donc il a été connu dès le départ par son film Les 400 coups, qui est assez autobiographique, puisqu'il évoque un petit peu son enfance. Il a eu une famille avec beaucoup de mal, des disputes avec son beau-père, sa mère qui était dans un état de santé très moyen, donc livré parfois à lui-même. Il va rencontrer, alors là je vais un petit peu rapidement mais j'y reviendrai, il va rencontrer André Bazin, qui est un des premiers amateurs de cinéphilie, qui va organiser des festivals, qui va faire des commentaires de films, qui va présenter des ciné-clubs, etc. Et il sera pris sous l'aile de Bazin, il habitera même chez lui, et celui-ci le fera entrer au cahier du cinéma. Donc le parcours de Truffaut est véritablement tourné très tôt vers le cinéma, et il passera par l'action, si je puis dire, critique, comme d'autres d'ailleurs, comme Godard, comme Romer, comme Chabrol, etc. Et par la suite, il deviendra réalisateur. Alors, revenons un petit peu sur son parcours et relevons surtout des éléments un petit peu saillants qui sont en permanence. Truffaut cherche son double ou présente son double. Beaucoup de films sont consacrés à une forme d'autobiographie ou reposant sur des événements qui ont existé. Alors, vous allez me dire que tout auteur, cinéaste, écrivain et plus ou moins biographe de son œuvre, mais pour François Truffaut, ça apparaît peut-être beaucoup plus que pour d'autres auteurs. Donc il a une carrière importante. Quand il est critique, il va adorer, il va mettre en avant des réalisateurs comme Hitchcock, comme John Ford, et puis en progressant, après avoir aussi cassé du sucre sur le dos des réalisateurs qui sont les réalisateurs anciens qui, après la Seconde Guerre mondiale, ont déjà une cinquantaine d'années, ont tourné pas mal de films. Et Truffaut parlera de Qualité France pour évoquer ces personnes qui sont dans une situation de monotonie et de reproduction du cinéma qu'elles ont pu avoir. Donc, Truffaut et son double permanent. Ce double permanent, il va apparaître, bien sûr, avec Doisnel, j'y reviendrai, qui fait l'objet de 4 films, et d'une évolution de 1959 à 1979. Et il y a aussi d'autres personnages qui sont très proches de Truffaut dans le physique et qui s'imposent comme véritablement des doubles. C'est pour ça que je vais m'axer un petit peu sur la question du double chez Truffaut. Alors on parlait des 400 coups, bien sûr c'est le film initial, c'est le film qui a fait beaucoup d'entrées, donc on écoute cette musique, les 400 coups.
Thank you.
J'examinais la filmographie de François Truffaut pour quand même vous donner les films les plus marquants. J'ai dit une vingtaine de films, dont Les 400 coups, c'est le premier, et c'est le plus grand succès. Tiré sur le pianiste avec Charles Aznavour, qui a une intrigue policière. Jules et Jim, avec ce trio, Jeanne Moreau qui est amoureuse de l'un puis de l'autre, Jules et Jim. La peau douce, qui est moins connue, avec une intrigue assez ambiguë. Il y a François d'Orléac, qui était la sœur de Catherine Deneuve. Fahrenheit 451, ça change des films habituels, puisque c'est un film en quelque sorte d'action, puisqu'on est dans un monde, dans un univers de science-fiction, dans lequel on détruit les livres. La mariée était en noir, c'est la vengeance de Jeanne Moreau qui va éliminer un certain nombre d'hommes qui ont apporté le malheur dans sa vie. La sirène du Mississippi, c'est Catherine Deneuve et Belmondo, exceptionnellement chez Truffaut. L'enfant sauvage, là, on le voit jouer directement celui qui va s'occuper de cet enfant qu'on retrouve dans les bois. Domicile conjugal, toujours Doinel. La nuit américaine, alors là, c'est un Oscar du meilleur film étranger. La nuit américaine, c'est le premier film véritablement consacré en France au cinéma. Il y en avait eu d'autres dans le cinéma américain, mais là, c'est vraiment un sommet. On voit apparaître des acteurs qui développeront leur carrière ensuite, comme Jean-François Stévenin ou Nathalie Baye. Histoire d'Adèle H, Adèle Hugo qui sombre petit à petit vers la folie. L'homme qui met les femmes, et Charles Denner, qui est un de ses acteurs, qu'il aimait bien, et qui montre une obsession pour les femmes. Le dernier métro, alors là, c'est un succès avec Catherine Deneuve et Depardieu, qui jouent une pièce, et Depardieu ne sait pas que Deneuve a caché son mari juif dans la cave et qu'il écoute l'évolution de leur rapport, un rapport qui devient amoureux. La femme d'un côté, retour sur le passé, Depardieu retrouve la femme qu'il a aimée, ça peut entraîner des éléments violents. Et puis Vivement Dimanche, qui est une sorte de petit polar comique avec Fanny Ardant et avec Jean-Louis Trintignant. Donc une carrière qui est assez remplie, comme je vous disais, et une carrière dans laquelle il y a toujours un personnage qui représente le réalisateur. Alors c'est pas nouveau, il n'est pas le seul. Vous avez des films avec Maurice Pialat dans lesquels il a son double. Nous ne vivrons pas ensemble, c'est Jean-Yann qui fait son double. Dans d'autres films, c'est d'autres acteurs. Mais ici, Truffaut a comme double tiré sur le pianiste Charles Aznavour. Et dans Vivement Dimanche, que j'évoquais tout à l'heure, il y a Jean-Louis Trintignant. Et Charles Denner dans L'homme qui aimait les femmes. C'est chaque fois un personnage qui correspond même en silhouette à Truffaut, c'est-à-dire petit, mince et agile, si je puis dire, et fragile. Donc le réalisateur a, je dirais, à la fois une fragilité, mais aussi un feu qui peut courir, surtout lorsqu'il s'est agi, quand il était critique, de descendre les films de ses réalisateurs, dont il parlait comme le réalisateur de la qualité France, ce qui était pour lui une insulte. Alors le parcours de Truffaut est intéressant parce qu'il apporte une richesse à tous ses films. Il y a toujours une projection de Truffaut dans son œuvre. On ne sait pas toujours s'il parle vraiment de lui ou s'il dresse un portrait robot de ce qu'il aurait aimé être, mais ça reste toujours ambigu, toujours présent. Et quand il est jeune, il a, comme je le disais, ce malheur qui le touche dans sa famille et il ne sait pas quoi faire. Donc pour expliciter un petit peu, il va être, on peut dire, abandonné et il sera instable. Il ne va pouvoir se fixer nulle part. Il aura différents postes, bon, peu importe l'énumération des postes qu'il va occuper, mais ça ne lui plaît jamais. Jamais, jamais. Et il se trouve qu'après la Seconde Guerre mondiale, à un moment où il arrive vers l'adolescence, il trouve l'évasion dans le cinéma américain. Son goût initial, c'est le cinéma américain. C'est Hitchcock et c'est John Ford. Mais il va aussi apprécier Rossellini, il va apprécier Renoir, il va apprécier Sacha Guitry. À l'époque, c'est étonnant parce que la plupart des personnes tiennent Guitry pour un mauvais metteur en scène. Et là, à titre personnel, j'ai toujours pensé que dans les décennies qui viendraient, il y a deux personnalités qui seraient valorisées. C'est Sacha Guitry d'un côté et Marcel Pagnol de l'autre, qui ont une œuvre absolument extraordinaire en tant que réalisateur, acteur, surtout Guitry. Donc, on a dans le film des 400 coups cette misère psychologique, cette difficulté matérielle que Truffaut va avoir à vivre. Alors, je parlais tout à l'heure de la rencontre fondamentale. La rencontre, c'est André Bazin. Alors, André Bazin s'est lancé dans une carrière de critique de cinéma et il va animer des ciné-clubs où il projette des films, les classiques, il anime des discussions et il va même, dans le cadre de passage dans les usines, il va présenter pendant une demi-heure les deux films ou trois films de Chaplin, dont on parlait parfois de courts-métrages. Je vous ai déjà évoqué la personnalité de Chaplin, ce sont des films. La durée normale du film dans les années 1910 à 1920, c'était deux bobines, c'est-à-dire 20 minutes. Donc, il y a une manifestation par Truffaut de son goût, voire de son obsession pour le cinéma. Et André Bazin va l'aider, le soutenir, il va même lui permettre d'habiter chez lui pendant quelques temps. Et surtout, surtout, il va ouvrir à Truffaut la porte des cahiers du cinéma. Et à partir de 1953 jusqu'aux années 60, Truffaut va collaborer à ces deux revues. Et c'est là qu'il va défendre les cinéastes que j'évoquais tout à l'heure. Et on peut ajouter aussi Abel Gance et quelques autres, pour lesquels il va être dithyrambique. Il encense les réalisateurs. Mais alors, quand il déteste un cinéaste, il va tremper sa plume dans le vitriol avec souvent une mauvaise foi évidente. Alors, il n'aime pas trop les réalisateurs comme John Huston, mais surtout, surtout, il va descendre René Clément, Jean Delannoy, Claude Autant-Lara, qui sont les représentants, je vous disais le terme tout à l'heure, de la qualité France. Pour Truffaut, le terme qualité France, c'est une véritable insulte qui vise à tuer les personnes qu'il critique. Donc, n'importe quel moyen est utilisé pour descendre les différents réalisateurs qu'il juge non plus classiques mais dépassés. Et lui-même va reconnaître, Truffaut, qu'il était quelque peu de mauvaise foi, qu'il était très très fortement tourné vers l'idée d'empêcher le public d'aller voir un film qu'il ne lui plaisait pas. Et il voulait dire qu'il était mauvais ce film, qu'il était inutile de se déranger. Et Truffaut dit j'agissais un petit peu par orgueil. Je voulais à toute force être écouté, être obéi. Donc là, on a ce mélange de douceur, faiblesse, de passion, colère qui est chez Truffaut et qui va animer son cinéma et notamment le personnage de Doinel qui sera son double dans 5 films. Alors parmi les films les plus connus, il y a bien sûr Jules et Jim. Jules et Jim, c'est Jeanne Moreau et une chanson qui est archi célèbre. Parfois certains ne savent pas qu'elle est née ici. C'est le tourbillon de la vie.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, mais mûr plus que jamais. Je me suis saoulée en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillée en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, ah là là, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue? Quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? À Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.
Alors, le double parfait, Antoine Doinel. Antoine Doinel, interprété par Jean-Pierre Léaud. Je précise alors, mais là, c'est tout à fait personnel, que Jean-Pierre Léaud m'énerve. Parce qu'il joue souvent faux. En même temps, c'est ce qui fait son charme. Hein, Marilyn Monroe en a parlé la semaine dernière. C'est pas une actrice peut-être fabuleuse, mais elle a un charme. Bon, alors, Jean-Pierre Léaud, il a un charme dans la manière dont il dit faux les dialogues. C'est tellement dit faux que ça devient une marque de fabrique. Bon. Alors, on a le premier film de Truffaut après plusieurs courts-métrages. On l'a cité plusieurs reprises. Les 400 coups. Dans Les 400 coups, on a Doinel qui apparaît. Et Truffaut recrute cet adolescent qui a 14 ans et qui s'appelle Jean-Pierre Léaud. Et qui est à ce moment-là un peu plus équilibré que par la suite où il deviendra un petit peu insaisissable, si je puis dire gentiment. Alors, il va continuer à suivre la carrière d'Antoine Doinel pendant 4 films. Alors, le second, alors Les 400 coups, c'est 1959. Il y a L'amour à 20 ans, 1962, Antoine et Colette. On a un sketch d'un film à sketch. C'était la grande mode à l'époque. Donc, on le voit sur la recherche d'un métier, sur l'évolution vers un mariage. Donc, transformation du personnage. Et cela continue dans Baiser volé. Après avoir été fou amoureux de Colette dans L'amour à 20 ans, Marie-France Pisier, il va évoluer vers Claude Jade, Christine, qui va être son épouse. Alors, il poursuit en 1970 par Domicile conjugal. Alors, l'évolution, c'est l'évolution qui devient classique à cette époque-là où le divorce s'installe facilement. Donc, Antoine Doinel, Jean-Pierre Léaud, est de plus en plus instable. Il abandonne sa femme pour des aventures et il va contribuer à ruiner son couple. Alors, le dernier film, L'amour en fuite, qui est beaucoup plus tard, en 1979, ce sera extrêmement différent. Antoine Doinel paraît se stabiliser. Il se lance dans une carrière d'écrivain, alors là encore, très autobiographique. Truffaut adore la littérature, il aurait pu être écrivain, comme Godard aussi, d'ailleurs, sur un autre domaine. Donc, il va lancer une relation sentimentale avec Sabine, jouée par l'actrice Dorothée. Alors, à l'époque, c'était un petit peu étonnant, parce que Dorothée, c'était l'animatrice des émissions pour enfants, du type Mercredi après-midi. Et elle faisait ça depuis une douzaine d'années. Et là, elle va jouer, de manière tout à fait correcte d'ailleurs, le personnage principal dont Antoine Doinel est amoureux. Et finalement, j'allais dire, tout finit bien. C'est-à-dire que là, il ne se sépare pas, il ne se dispute pas. Et il finit par aboutir à une stabilité de couple. Donc, Antoine Doinel, vraiment le double. Je vous ai dit, Truffaut, mince, petit. Et Jean-Pierre Léaud, c'est pareil, mince, petit. Et Truffaut raconte une anecdote qui était assez caractéristique. Un jour, il rentre dans un café et le lendemain de la diffusion de Baiser volé, le patron me dit « Ah, mais je vous reconnais, je vous ai vu hier à la télévision. » Or, ce n'est pas Truffaut qui l'a vu à la télévision. C'est Jean-Pierre Léaud jouant Doinel. Donc, le personnage est à tel point le double que le public peut confondre les deux. Alors, il aura ensuite, avec Jean-Pierre Léaud, plusieurs films, notamment Les Deux Anglaises et Le Continent, qui est un peu moins connu, et qui est un film, effectivement, que l'on peut voir, mais sans excès. Et il jouera Jean-Pierre Léaud dans La Nuit américaine. Comme je vous disais tout à l'heure, La Nuit américaine, c'est un film très nouveau pour le cinéma français, de vision du cinéma en train de se faire. Je précise que La Nuit américaine, c'est le système suivant. On tourne deux jours, mais on met en place des projecteurs et des filtres de manière à ce qu'on croit que c'est la nuit. Donc La Nuit américaine, c'est ça. C'est une fausse nuit que l'on met en place en plein jour. Là aussi, manipulation des personnages. Donc, c'est un personnage qui va être critiqué, Léo. Un des acteurs dit « C'est un enfant capricieux, gâté. Il ne sera jamais un homme. » Et ce n'est pas parce qu'on a eu une enfance difficile qu'il faut faire payer à tout le monde. Ah ben alors ça, c'est exactement ce qui peut s'appliquer à Truffaut. Donc, vraiment, ce double-là est constant. Alors, je vous ai dit qu'il y en avait d'autres, Vivement Dimanche et le Tiré sur le pianiste. Avec Belmondo, ça change. On a Belmondo qui joue dans La Sirène du Mississippi et il va être, contrairement à son image à l'époque, il va être plus ou moins atone et dominé par celle qui arrive sur un mensonge qui est Catherine Deneuve. Donc le film n'aura pas trop de succès. On peut penser qu'à l'époque, déjà, le public voudrait voir en permanence Belmondo dans des cascades, dans des films d'action, et peut-être moins dans un film psychologique. Mais le film a beaucoup de charme dans son histoire et dans sa réalisation. Donc La Nuit Américaine que je viens de citer, il y a d'ailleurs une musique que l'on peut écouter qui est tout à fait agréable. La Nuit Américaine. Quelques remarques sur des films moins connus, mais qui ont quand même un intérêt. Je veux parler de L'Enfant Sauvage. L'Enfant Sauvage, c'est donc un enfant qui a été trouvé dans les bois, et le docteur Itars va s'occuper de le soigner, de le faire entrer dans la civilisation, de l'éduquer. Et qui joue le docteur Itars? C'est François Truffaut. Là, il occupe un personnage principal, un rôle principal, et il va essayer d'aboutir à un résultat avec cet enfant qu'il s'agit d'habituer à la vie normale, entre guillemets. Alors ensuite, il y a aussi La Chambre Verte, qui est tout à fait consacrée au culte des morts. Est-ce qu'on doit avoir une approche de la mort? De quelle manière? Avec quel danger? Donc ça, c'est un film qui n'a pas eu beaucoup de succès, mais qui présente un intérêt psychologique et, je dirais presque, philosophique. Autre film sur un déséquilibre, c'est l'histoire d'Adèle H. Alors Adèle H, c'est Adèle Hugo, jouée par Isabelle Adjani. Elle poursuit de ses feux un jeune lieutenant. Elle s'offre à lui, elle se consacre à lui, mais celui-ci ne tient pas à répondre vraiment à ses avances. Donc le personnage sombre dans la folie, dans le déséquilibre. Bon, on a comme film à cette époque-là, c'est-à-dire en 78 c'est La Chambre Verte et en 80 c'est Le Dernier Métro. Et donc là on a, avec Le Dernier Métro, un film qui a eu beaucoup de succès. Sur la trame que j'évoquais tout à l'heure, donc il y a un auteur dramatique et sa femme, Catherine Deneuve. Et avec l'arrivée des Allemands, il va descendre dans la cave et vivre dans la cave. La seule qui connaît son existence, bien sûr, c'est son épouse, Catherine Deneuve, et elle va jouer des pièces. Des pièces donc avec Depardieu, et il y aura un rapprochement entre les deux. Alors, comme je le soulignais tout à l'heure, ce qu'il y a d'intéressant ou d'amusant, c'est que le personnage du mari suit l'évolution de la pièce, il veut écouter ce qui se passe dans la pièce, parce que c'est lui qui l'a écrite, et il veut aussi voir comment évoluer la relation qui devient amoureuse entre Depardieu et Catherine Deneuve. Dans Le Dernier Métro, c'est vraiment un film qui a un potentiel de succès, et qui le sera d'ailleurs. Ce sera peut-être l'avant-dernier. Il y a deux films encore après, mais Le Dernier Métro sera quand même le succès qui sera le dernier grand succès de Truffaut. Donc Le Dernier Métro, écoutons la musique du Dernier Métro. Un dernier mot sur Truffaut, à la fois critique et acteur, ce qu'on sait moins. Alors critique, il y a un livre symbolique qui a marqué tous les critiques et toutes les générations, c'est Alfred Hitchcock et François Truffaut. François Truffaut est un des premiers à mettre en place un entretien sur une très très longue durée avec Hitchcock, et il pose des questions, Truffaut pose des questions, Hitchcock répond. Et Hitchcock vraiment se dévoile, parce qu'au départ il est un petit peu sceptique, un peu comme John Ford, je vous en ai parlé, John Ford qui disait « Je suis John Ford, je fais des westerns », et quand un critique lui demandait « Mais alors ça, cette scène-là, vous l'avez tournée comment ? C'était difficile ?» Il dit « Avec une caméra ». Bon, donc là c'est lapidaire. Par contre, Hitchcock se laisse entraîner par la passion de Truffaut pour son œuvre, et il va répondre aux questions, et l'ouvrage Truffaut-Hitchcock est devenu un classique, archi-classique de cette approche par des réalisateurs de critiques qui vont les décortiquer entre guillemets. Et enfin donc, acteur. Oui, il a été acteur dans d'autres films que les siens. Et je retiens un film central, c'est quand même Spielberg qui l'a réalisé, c'est Rencontre du troisième type, et il fait un savant français, avec son accent, etc. Donc les Américains aiment Truffaut, Scorsese n'a jamais caché son amour pour Truffaut, et donc Spielberg a un amour pour Truffaut, il l'a pris comme acteur, c'était une manière d'hommage pour lui. Donc Truffaut a une œuvre, c'est un grand réalisateur et c'est un grand artiste. Thank you. C'était Cinéma Cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec à la technique Chéliane Ahamada. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de l'association Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.